21 septembre, bienvenue à la deuxième émission de la nouvelle mouture de l'aérospatiale qui sera animée, bien entendu, par moi. Et moi, c'est Julie Gagné. Cette semaine, une toute nouvelle chroniqueuse qui fait ses débuts dans le monde de la radio, Dominique Savoie. Bonjour!
Salut!
Ça va bien?
Oui.
Pas trop nerveuse?
Juste assez.
Juste assez, c'est bon, ça. Et comme d'habitude, on est rejoint par Éric Dorion qui nous fera son choix audio de la semaine. Bonjour Éric.
Bonjour.
De quoi nous parles-tu?
Je vous parle, c'est une compilation. En fait, c'est un disque c'est un étrange objet, un ovni un peu. C'est une revue audio qui existe. C'est une maison qui s'appelle Vibro. Donc, la revue audio s'appelle Vibro. Et puis, il lance une fois par année ou deux fois par année cet objet-là, qui est un superbe objet avec photographie et tout. Donc, c'est un boîtier, ça se présente comme un boîtier.
Ah ouais.
Avec photographie. Et puis, ils font des liens, c'est littéralement de l'art audio. Là, cette fois-ci, je vous ai pris le volet numéro 5 de cette revue-là, Vibro, qui s'appelle The Plastic People, mais je vais t'en parler un peu plus tard.
Ben oui, dans deux minutes. Parfait. Environ. Juste avant, je voulais annoncer le reste qui aura, ben le reste, en fait, les entrevues qu'on aura au cours de l'émission. On reçoit Richard Martel pour voir comment ça se passe avec la rencontre internationale d'art performance. Et aussi, on va recevoir en entrevue Bernard Paquet, qui expose en ce moment à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Il n'y a pas qu'à la dernière couche qui compte une exposition où la peinture devient objet. Et là, Éric, c'est le temps que tu nous parles de ta creuse.
De la sélection audio. Donc, c'est ça, Vibro. Le disque que j'ai choisi cette semaine s'intitule « The Plastic People Issue ». Donc, c'est le volume numéro 5, printemps 2009, de la revue Vibro. Donc, pour ce numéro-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, il y a mon ami là-dedans, Rodolphe Alexis, qui est à Paris. Qui est le directeur de la revue. Et puis, ils ont demandé, en fait, à des artistes en art visuel et en installation, des artistes qui ont une relation particulière avec le son, donc soit qui font des installations ou qui a toujours du son. Donc, ils ont demandé à ces artistes-là de proposer des pièces pour la revue. Et franchement, c'est vraiment dommage là, qu'on puisse pas voir ce superbe objet, puisque chaque pièce est accompagnée d'une photo. Une photo de l'installation, et puis au verso, on retrouve l'information à propos de la pièce et des artistes. Et donc, j'ai fait une sélection de 4 pièces. Je tiens à vous dire, chers auditeurs et auditrices, que ce sera seulement que des extraits qu'on va entendre, bien sûr, parce que c'est des pièces qui sont habituellement un peu plus de 6 ou 7 minutes. Et puis, donc, si on passait 4 pièces de 6 minutes, de quoi parlerait-on?
On écouterait.
Voilà.
On écouterait, simplement.
La première pièce, c'est une pièce de François Martigues et de Philippe Petitgenet. François Martigues, vous allez peut-être le recevoir à l'émission un jour, puisque François est en résidence pour 4 mois dans le cadre des pépinières européennes. Il est en résidence à Québec.
OK.
C'est un Belge d'origine, mais qui demeure en France depuis maintenant 10 ans. Et puis, il reste à Metz. Et puis, son travail est directement orienté sur l'audio. Et donc, pour la pièce qui est sur ce numéro de Vibro, alors on va entendre de Noisette, et qui est tiré d'une installation. Et au courant de l'émission, on va entendre une pièce de Jody Rose et Eric Menkinen. Jody Rose, qui est une artiste en installation qui vient de Nouvelle-Zélande, et Eric Menkinen, qui est parisien. On va entendre Journal de bord d'un petit caillou. Jacob Kierkegaard, qui est allemand, lui aussi artiste visuel, avec la pièce Fool's Fire. Et Andrea Williams, british, avec la pièce Silo. Donc, tous des pièces qui sont tirées d'installations sonores. Et cet album-là, Vibro, ainsi que les autres numéros du magazine Vibro, vous pouvez les retrouver chez Avatar, en fait. Ils distribuent chez Avatar. Donc, voilà, on va commencer avec la pièce.
Il suffit d'aller faire un tour chez Avatar.
Oui, chez Avatar, que je vous rappelle, ils sont situés dans la coopérative Méduse au 5e étage. Et puis, ils vendent ce disque. C'est un objet qui est superbe. Et puis, vous allez voir, le travail est vraiment intense.
Voilà, ben, avis aux intéressés et aux collectionneurs.
Voilà. Hey, je vous souhaite une belle émission.
Ben,
et puis,
merci,
Eric. Écoutez ça attentivement.
Alors, pour l'instant, on écoute Noisette de François Martigues et Philippe Petit-Genet voilà. sur les ondes de CKRL. C'était Noisette ou encore Noisette, ça me semble peut-être approprié, de François Martigues et Philippe Petit-Genet, toujours à l'aérospatiale en compagnie de moi-même, Julie Gagné, Dominique Savoie, de notre metteur en ondes, animateur du matin aussi, qui se prête à l'exercice pour aujourd'hui, Raymond Poirier. Et on reçoit à l'instant Richard Martel dans les studios de CKRL, parce que comme je le disais en début d'émission, la rencontre internationale d'art-performance n'est pas terminée. Ça continue en fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. L'Asie et la France sont à l'honneur, mais avant de s'y rendre, j'aimerais entendre parler de la semaine précédente. D'abord, Richard Martel, bonjour.
Bonjour.
J'ai oublié la formule.
À parler du passé, c'est pas tellement... Mais en même temps, il y a eu un peu de tout. Là.
Ben, ça a été quoi, en fait, les moments forts de la première fin de
ça
semaine?
Ça dépend. Hein. Tu sais, la Conjalada de Uva, ben, c'était fort, sauf qu'il y a presque les deux tiers de toutes les filles qui sont sorties.
Ah ouais?
Ouais, parce
qu'est-ce
que
qu'elle faisait exactement quand j'ai pas pu y
assister? Violent, là. Elle se perce le corps. Après ça, elle suspend des objets. Et puis, c'est ça, là. C'est très hard, un peu, comme on dit, là. C'est
très
c'est
total.
Pas très doux, mais c'est ça, dans un festival, il faut présenter un peu de toutes sortes de choses aussi. La soirée brésilienne, c'était non-stop. C'était comme un gros happening, là, dans le sens où il n'y avait pas d'arrêt. Ça a été notre maître de cérémonie qui a parlé au début et jusqu'à
ça,
pendant deux heures, ça n'a pas arrêté, comme on dit. Là. Il y en a un qui est revenu trois fois en faisant des bon, on connaît les Brésiliens, là, ce côté carnaval.
Ben ouais, très
ça faisait party. Un peu carnaval, finalement, mais en même temps, il faut qu'on comprenne. En fait, quand je vous l'ai expliqué la semaine dernière, que cette année, au niveau, que je rappellerais, anthropologie de la performance, dans le sens où on veut voir aussi si par rapport au pays, du moins aux cultures, s'il y a une incidence au niveau des pratiques des artistes et vice-versa.
Bien, justement, moi, je me demandais, ouais. vous avez fait le colloque sur la situation de l'art en Amérique latine. Est-ce ouais. que vous aviez un peu confirmation de cette hypothèse-là ou de cette idée-là?
Ça a été déjà entre les Mexicains et les Brésiliens, c'est déjà très gros la différence. Hein?
Ah ouais?
Bon, on pense que c'est tout. Et là, je pense qu'on va avoir pas un choc, là, mais ceux qui vont voir les perfs asiatiques puis qui vont se souvenir des perfs qu'on a eu la semaine dernière, appelons ça des latinos, là, ils vont avoir encore un autre choc. Là, parce que vraiment, là, on va se poser la question, c'est parce que, je sais pas moi, la performance, le style des Coréens, par exemple, ou des Singapouriens, c'est un peu mélangé parce que c'est un peu comme il y a trois langues officielles dans ouais. ce pays-là. Il y a aussi des pratiques qui sont très divergentes. Dans le cas des Coréens, ben au risque de répéter, comme il y a en Corée du Nord, il y a une espèce de barrière là.
Une barrière psychologique et physique très forte.
Une vraie
forte.
Barrière. Oui, là. Oui. Eux, ils sont obligés de sortir de leur pays en avion ou en bateau. C'est comme une île, donc ils ont développé une insularité, si je m'exprime un peu. Et en même temps, ben vous savez, des trucs coréens, on en a partout. Des Daewoo, des Hyundai, il y en a dans à peu près tous les pays. Ouais. C'est un pays extrêmement organisé, très, très, très fort, avec une grosse, des grosses minorités aux États-Unis, entre autres. Et puis, eux, à mon avis, ils s'ajustent beaucoup au niveau de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut que la prestation performative soit comprise presque au niveau de l'enfant, jusqu'au, évidemment, jusqu'au plus grand, là.
Mais ça, ça risque d'être intéressant, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que la performance sonore qui peut être un peu plus difficile d'accès, voire hermétique, donc une approche vraiment peut-être beaucoup plus inclusive.
Plus,
peut-être pour les profanes, en fait, ça risque d'être peut-être l'événement à voir, j'imagine.
Plus, autrement dit, plus divertissant, plus humoristique. En tout cas, moi, j'ai vu souvent Ongo Bong en performance. Et je l'adore parce qu'il est, il est physiquement extrêmement dense, même si son propos est un peu plus léger, pas nécessairement léger, comme plus abordable, moins philosophique, mais en même temps qu'au niveau physique, au niveau de la prestation. Je veux dire, moi, puis entre autres Boris Cessioni, qui est aussi un performeur organisateur, on adore les performances d'Ongo Bong parce que, je sais pas. Et puis, j'aime beaucoup la petite phrase qu'Ongo a écrite ici dans le catalogue que je vous ai passé. Si l'oiseau meurt, nous allons mourir aussi. Si l'oiseau vit, nous allons vivre aussi. Tu vois, c'est déjà, c'est tellement simple comme logique.
C'est un peu naïf aussi.
C'est
dans
un peu
une
naïf,
certaine mesure.
Mais en même temps, c'est très poétique quelque part.
Ouais.
Il y a donc, dans ces perfs, il y a beaucoup de poésie, puis beaucoup de fraîcheur, puis d'originalité dans les perfs des Coréens.
Ça doit faire du bien aussi, parce que parfois, comme vous disiez, en parlant de la... Voyons, j'oublie la Coveda, je suis pas capable de prononcer son nom, la Mexicaine, qui se faisait
la Congelada de Uva.
Voilà, la Congelada de Uva, qui est quand même assez lourd, donc un petit souffle rafraîchissant comme ça, dans le cadre de la rencontre d'art performance, ça doit vraiment faire du bien aussi.
Un peu de... Mais aussi, on a axé beaucoup la présence sur l'Asie, sauf que la dernière soirée est une soirée avec des Français, parce que comme on est des francophones, alors c'est toujours très intéressant de revenir tout le temps avec les prestations de poètes sonores et de gens qui travaillent la dimension du langage.
Ça va être principalement ça chez les Français?
Oui, bien, celle que Liping et Valentine Verhagen, c'est un mélange entre la danse et la perf. Elle, c'est une très, très forte personnalité. En plus, c'est intéressant parce qu'elle est d'origine chinoise.
Oh.
Donc, quand même, c'est pas si mal. Liping, elle parle français, mais elle fait 20 ans qu'elle vit en France avec un passeport français. Mais d'origine chinoise. Et puis, Dubos, puis Cabu, Dubos, c'est plus de la poésie. Il est prof de mathématiques, puis il fait de la poésie scientifique. Tandis que,
c'est très
original.
Comment ça s'articule, au juste, la poésie scientifique?
Il y a 12 personnes qui vont être avec lui, alors je ne peux pas savoir ce qu'il va faire.
12 personnes?
Oui. Ben, il y a 12 participants, autrement dit, que lui, il a déjà contacté.
D'accord.
Je ne sais pas moi-même, puis je veux garder la surprise aussi. Et puis, Cabu, lui, est membre du groupe Boxon. C'est la nouvelle génération. Ils ont 35 ans à peu près. Ils font une revue à Lyon. C'est la nouvelle génération. C'est un peu des post-dadaïstes. Eux, c'est vraiment la poésie-action un peu délirante.
Délirante, absurde, pas trop.
C'est pour ça que j'ai mis la dernière soirée France. Parce que dans l'après-midi, on aura la discussion avec les Asiatiques.
Ben oui.
Et je peux dire une chose. La discussion de dimanche passé était très enrichissante. Et il y avait pas mal de gens présents aussi. Ça, c'est peut-être un peu surpris.
Oui, les gens ont bien répondu à l'appel
parce
pour
qu'il
la
très
première
beau
semaine.
Dehors. On s'est dit peut-être que les gens viendront pas parce que... Bon, mais en même temps, il y a des gens qui s'intéressent à ça, autrement dit. Mais il y avait vraiment de la matière là, dans cette discussion-là. Et
mais
chacun...
quelles conclusions, globalement, ont été tirées? Il y en a beaucoup,
pas eu de
non? Il n'y a pas de consensus.
Non. Puis en même temps, on a appelé ça l'Amérique latine, mais en fait, c'était Mexique-Brésil. Hein, fait que c'est pas vraiment l'Amérique latine non plus. C'était une petite partie de l'Amérique latine. Si on avait un Vénézuélien, puis je sais pas moi, un Bolivien, on aurait peut-être un autre son de cloche. Là.
Ben oui, c'est ça. Donc, mais c'est comme les échantillons pas assez grands, finalement.
Oui, c'est comme là, on a la chance. On a un Birman qui vient de Birmanie. Et j'ai su pourquoi aussi qu'il vit en France, c'est qu'il serait marié avec quelqu'un qui travaille à l'Alliance française à Rangoon, la capitale, et il organise avec l'Alliance française des événements au Myanmar, c'est-à-dire en Birmanie, mais il vit en France.
À quoi on s'attend justement de cet artiste-là? Parce que quand même, la Birmanie, là, la situation politique est très, très difficile, un régime totalitariste assez sévère, là, c'est Big Brother carrément. Là.
C'est un régime militaire depuis longue date, mais... je ne sais pas s'ils vont finir par avoir des élections démocratiques. Mais en tout cas, bref, c'est sûr que sa prestation risque d'être un peu plus tourmentée, un peu plus au niveau simplement des assises politico. Là encore, c'est une surprise, mais moi, je l'ai vu déjà en performance à Sète, la ville de Sète en France. Et j'ai trouvé ça très... pas amusant, mais c'est quelqu'un qui se promène avec juste une petite paire de shorts. Et qui court, il courait dans le marché tout le temps pendant des heures et des heures en souhaitant joyeux Noël à tout le monde. Mais
absolument pas dans le temps des fêtes, j'imagine.
Absolument pas dans le temps des fêtes. Mais de voir quelqu'un comme habillé en étranger et tout ça, puis là, il y avait une carcasse d'animaux sur lui, ben, ça fait un peu, toujours un peu bizarre. Là, je sais pas, comme je vous dis, nous, beaucoup,
ben, oui,
dans les rencontres d'art performance, on veut se surprendre soi-même, donc c'est, on espère qu'on ne saura pas tout ce que l'artiste va faire.
Donc,
c'est souvent l'artiste lui-même ne le sait pas.
Oui, c'est ça, hein, parce qu'on regarde même en regardant le cahier de présentation, on a surtout une idée du parcours des artistes, mais ils ne disent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Et effectivement, c'est une bonne idée que ça soit une surprise, parce que sinon, tant qu'à lire une description, ben,
la plupart des gens qui sont en milieu du théâtre, souvent, on sait tout à peu près ce que les gens vont faire, à peu près avec l'éclairage peut-être et même tout. Nous, on ne le sait pas.
On utilise un peu plus de scénographie, probablement.
C'est une lame à deux tranchants. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais je pense que ça, jusqu'à présent, ça va assez bien.
Ben, tant mieux. Ben, Richard Martel, merci beaucoup. On invite les gens à aller à la Rencontre internationale d'art performance. C'est du 23 au 26 septembre au 735 rue Saint-Joseph-Est.
Il y a beaucoup, beaucoup de surprises, à mon avis. Puis beaucoup de différences. Puis ça va être un peu, pas un choc, là, mais de voir le rapport entre les perfs de la Corée et puis de la Chine, puis de Singapour. Singapour étant un peu comme un mélange d'une certaine manière, parce que, comme j'ai dit, il y a trois langues officielles. Donc, ils sont aussi culturellement entre l'Amérique, entre l'Asie. C'est un pays riche. Hein, veux dire. C'est une cité-État, là, Singapour. C'est 28 km par 48 km. Ils sont 3,5 millions là-dessus. Il y a un aéroport plus gros ils font de l'import-export. C'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui vient de...
C'est une plaque tournante de l'Asie, finalement.
Ils prennent les marchés, les trucs de Thaïlande, d'Indonésie, tout ça, puis ils amènent ça à Singapour, puis après ça, ils revendent ça en Europe, partout. Donc, c'est culturellement, ils sont déjà mixés.
Oui, c'est ça, un peu plus hétérogène, un peu plus hétéroclite aussi. J'imagine que ça doit peut-être transparaître
tandis
encore
que les Coréens, ils ont une originalité, à mon point de vue, coréenne, puis les Chinois probablement aussi, avec une certaine... Sauf que, quand on en a parlé la dernière fois, ce que je trouve assez bizarre par rapport au... C'est que les Chinois, il y a 20 ans, il n'y en avait pas. J'ai fait une conférence en 1997 dans une maison. Il y avait pas de performance à peu près. Là, il y en a, c'est énorme, énorme, énorme. Mais eux, ils découvrent la perf en même temps qu'arrive le software, puis le digital, puis YouTube, puis tout ça.
C'est vraiment un tout nouveau regard, en fait, sur la performance qui est moins éphémère,
C'est beaucoup fait pour la photo, on se rend compte, autrement dit. Nous, la photo est un constat de l'action, mais c'est pas l'action qui est faite pour la photo. Donc, ça pose toute une autre approche par rapport à la performance.
Donc, des nouveaux développements peut-être pour la performance.
Ouais.
Est-ce qu'on peut prévoir un peu ce qui se dessine pour l'avenir dans l'art performance? Ou il y a des nouvelles tendances qui sont très actuelles, justement, l'idée de garder pour la photo ou pour la diffusion?
Ben oui et non, c'est-à-dire que c'est difficile de parler pour le futur, mais je suis pas encore prophète à ce point-là, mais c'est sûr que je donnais l'exemple qu'un des Chinois qui vient, il était là à la grosse expo China Gold à Paris il y a 2 ans, et lui, il fait des espèces de mises en situation où il se photographie, puis il met ça dans le marché de l'art, puis ça se vend au même titre qu'une peinture ou un autre objet, finalement.
OK. Ben merci beaucoup.
Venez en grand nombre.
Ben oui, en grand nombre, c'est comme je le disais, du 23 au 26 septembre au 735 rue Saint-Joseph-Est, là où il y avait Pampeinture, où il y a aussi les expositions de la Manif d'art. Si vous voulez des informations, vous allez sur Internet, vous tapez Inter-le-lieu et ça va vous rediriger sur le site de la Rencontre internationale d'art performance.
Puis si vous marchez, il y a une bannière.
C'est assez difficile à manquer. Il faut vraiment avoir des œillères très, très fermées sur les yeux pour manquer le tout.
Puis venez en grand nombre parce que l'espace est très grand.
Voilà. Ben merci beaucoup, Richard Martel.
Merci.
Nous, on s'en va en pause audio. On écoute « Journal de bord d'un petit caillou » de Jody Rose et Éric Minkinen sur les ondes de CKRL 89.1. Toujours à l'aérospatiale, c'était un extrait de Journal de bord d'un petit caillou. Quand même intéressant le nom de l'œuvre, Journal de bord d'un petit caillou, ça porte à réfléchir, de Jody Rose et Eric Minkinen, toujours issu de Plastic People Issue, une compilation du magazine Vibro dont Eric Dorion nous parlait en début d'émission. Avant de conclure la première demi-heure de l'émission, on recevait Richard Martel. Ça m'a fait penser que le nouveau Inter est sorti, le numéro 106, qui porte sur les rituels. En art, la notion de rituel peut être assez large, on peut la réfléchir de long en large, justement, quitte à me répéter. Et c'est ce qu'ils font dans le nouveau Inter. On parle beaucoup de la performance et de leur action, qui utilisent le rituel pour se connecter, pour peut-être se connecter sur soi, pour communiquer, pour exorciser, pour provoquer, pour aller toujours de l'avant dans des nouvelles quêtes de sens, des nouvelles vérités relatives à l'approche artistique. Dans les articles, il y a notamment un article ou un poème plutôt d'Akhenaton qui s'interroge sur la nature du rituel, avec Serge Pay aussi qui fait la même chose. Un article, une entrevue très intéressante de Nathalie Côté qui fait une entrevue avec Marcel Jean, un artiste d'ici qu'on connaît quand même assez bien, qui a exposé deux fois à l'automne dernier. Donc, une entrevue où, justement, on questionne sur la nature du rituel dans le geste pictural, dans sa production à lui. Très intéressant. Aussi, un article pour les âmes sensibles, je vous dirais, abstenez-vous, c'est l'article de Helge Meyer qui s'appelle « La douleur comme moyen de lutte politique » où il nous présente entre autres, la description d'une performance de Zhu Yu dont Richard Martel nous avait parlé la semaine dernière, une performance qui s'appelle Eating People, et c'est avec des photos à l'appui, c'est l'artiste qui mange un fœtus humain. Donc, ça reste très, très difficile, mais voyez à quel point la notion de rituel peut aller d'un extrême à l'autre, de, peut-être plus vers la poésie ou l'humour. Et tout ça. Donc, un nouveau numéro pour Inter, c'est disponible les kiosques ou encore les papeteries, les endroits où on vend les tabagies, partout où on vend des revues, c'est disponible. Sinon, cette semaine, l'œil de poisson fait pause concernant les activités de la maison, mais c'est toujours possible d'aller visiter l'exposition du mercredi au dimanche à partir de midi. La maison qui est carrément l'œil de poisson qui est transformée en maison. Donc, on entre dans l'entrée de Mélanie Bédard. On visite le garage de Blaise Carrier-Chouinard, un garage qui est à mi-chemin entre le repère du mâle viril et le jeu de l'enfant aussi qui s'amuse à jouer au garage. On est accueilli dans la maison par le vestibule de Rénal Tremblay avec un lustre, ma foi, un lustre de patenteux, carrément, un lustre qui est fait de globes terrestres, de petites figurines, etc. Mais surtout, le vestibule qui est décoré de toutes les affiches qui ont été produites pour tous les événements de l'œil de poisson au cours des 25 dernières années. Et Dieu sait qu'ils ont produit des événements, et Dieu sait qu'il y a des affiches. Un parcours assez intéressant dans la mesure où là, on peut voir peut-être l'évolution de l'esthétique, l'évolution des concepts, voir le dynamisme, peut-être l'effervescence aussi de l'œil de poisson depuis 25 ans. Ensuite, il y a la cuisine, bien entendu. La cuisine chez les Québécois, c'est un lieu de rassemblement. Dans le cas de la cuisine de Mario Duchesneau, c'est peut-être plus le lieu des jeux, des formes, des étagères en bois vides qui sont installées sur le mur, pas de vaisselle. Oups, on descend le regard, il y a de la vaisselle empilée partout par terre. Ça culmine une espèce de tension dramatique avec un réfrigérateur qui est carrément placé sur la vaisselle cassée. Dans le réfrigérateur, il y a de la brique, un verre de vin, il y a pas de nourriture. En fait, on sait pas, est-ce que cet endroit-là est sur le bord de déménager? Est-ce qu'on cherche à cacher? Est-ce qu'on faisait le ménage? Donc, cette espèce d'opposition aussi entre le trop-plein de la vaisselle et les jeux de volume des étagères qui est très intéressant. Le salon a été fait par Samuel Roy-Bois qui est aussi musicien. Le salon, ça sert de scène et souvent aussi, on accueille dans notre salon un salon qui est placé à l'envers, qui est là en plein milieu d'un déménagement avec la balayeuse, un verre de bière, puis des boîtes de carton qui traînent, mais le tout au-dessus de nos têtes. Et je dirais que la maison, en fait, culmine avec la chambre d'Annie Baillargeon, une espèce de chambre toute noire avec du velours rouge au tapis, un gros lit en miroir, un lustre fait de boules miroir aussi qui tourne et qui fait réfléchir la lumière un peu partout, et sur le lit, comme une sépulture, un cadavre en cire, comme seul Annie Baillargeon sait les faire, recouvert de fleurs, le tout très poétique, mi-féerique, mi-cauchemardesque. Vous pouvez toujours y aller, c'est jusqu'au 9 octobre 2010, à l'Œil de Poisson, situé dans le complexe Méduse sur la côte d'Abraham. Et c'est ainsi qu'on clôt la première demi-heure d'émission de l'Aérospatiale.